France Culture. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
On a des bénéficiaires qui sont sans logement et tous les mardis soirs, on leur distribue de la nourriture et des rendez-vous vétérinaires. Donc c'est comme ça qu'avec Vétérinaires pour tous, une fois par mois, on les accueille sur la base de ces rendez-vous-là qu'on a pris auparavant, qui sont des rendez-vous plutôt du quotidien, de l'ordre de vaccination, petits bobos, et aussi éventuellement aussi des discussions autour de procédures un peu plus complexes, type stérilisation. Et par ailleurs, c'est un moment privilégié parce que c'est vraiment un moment où on prend le temps avec nos bénéficiaires de discuter de leur situation, d'en savoir un peu plus sur où ils en sont socialement, mais aussi par rapport à leurs animaux, si les animaux vont bien ou pas.
Profession véto, de la rue à la fin de vie, comment prendre soin de nos compagnons dans des situations difficiles. Après un premier volet consacré aux raisons d'un mal-être qui sévit dans les écoles de formation et sur le terrain professionnel, nous poursuivons notre immersion au cœur de ce métier passion, vétérinaire, confronté à des relations aux animaux qui évoluent et qui génèrent de nouvelles attentes. Avec nous, Estelle Prier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présente pour cette émission. Vous êtes docteur vétérinaire, représentant l'Ordre des vétérinaires au Conseil d'administration de Vétérinaires pour tous. Vous êtes conseillère nationale chargée de la commission protection et bien-être de l'animal. Avec nous également en distanciel, Léonie Castagnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante à l'école vétérinaire d'Alfort et bénévole à Vétérinaires pour tous. Et avec nous en studio, Yesenia Alves-Leiva, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire et accompagnante de deuil animalier, fondatrice de Vet Eden, service vétérinaire dédié à la fin de vie des animaux de compagnie. Et vous êtes autrice aussi du livre « J'accompagne la fin de vie de mon animal », édité chez Courrier du Livre. Bienvenue à toutes les trois, bienvenue à nos auditeurs dans le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Célestine Babinet avec Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Christine Anzano et Anne Delaveau de Lina, émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique Alexandre Dang.
J'ai rencontré et connu VPT en faisant des recherches sur Internet pour faire des soins à mon chat qui était malade. Avant de connaître Vétérinaires pour tous, je ne venais chez le vétérinaire que pour les urgences parce que j'ai des moyens très limités financièrement. Grâce à Vétérinaires pour tous et à mon vétérinaire, Pioui a eu la vie sauve car sans leur aide, à 7 heures, il serait décédé.
Ma Vétérinaire pour tous m'a aidée personnellement dans le fait que maintenant je paye un tiers de la facture et financièrement c'est énorme. Ça peut aider beaucoup de gens dans la difficulté.
Vétérinaire, un métier rêvé qui ne s'exerce pas uniquement dans les cabinets de ville et dans les zones rurales, mais aussi dans des lieux d'entraide ou à domicile, comme nous allons le voir aujourd'hui. Et vous venez d'entendre un extrait d'une vidéo diffusée sur le site de Vétérinaires pour tous et en date du 27 juin 2024. Ce métier passion, il est votre quotidien depuis quand et où exercez-vous, Estelle Prier?
Alors, moi, j'exerce depuis presque 25 ans. J'ai longtemps exercé dans une clinique qui était en pleine campagne et donc j'exerçais auprès des petits animaux. Et j'ai découvert Vétérinaires pour tous au début des années 2000, puisque c'est une association qui existait déjà. Et ça m'a séduit tout de suite parce que je cherchais, comme tous les vétérinaires, à trouver des solutions ou des alternatives lorsque j'étais confrontée aux difficultés financières de mes clients. Et ce principe de solidarité partagée, hein, comme ça a été évoqué dans l'extrait, où je pouvais me faire accompagner par une association pour savoir si en face de moi j'avais quelqu'un qui était éligible et à partir de là je savais que je faisais un cadeau juste avec une partie qui restait à charge du client pour que responsabilité dans l'engagement de ses soins et une association qui m'aide financièrement à gérer cette solidarité. Je trouvais que c'était quand même le modèle parfait.
Un métier qui fait beaucoup rêver et qui génère aussi des pressions souvent lourdes à gérer jusqu'à faire émerger un mal-être et des suicides médiatisés ces dernières années. Nous en avons parlé il y a 2 semaines. Quelle est votre perception de cette situation qui a suscité des alertes et des rapports ces dernières années, Estelle Prié ?
Oui, c'est vraiment quelque chose de très triste pour notre profession parce que c'est un constat qui est scientifiquement établi. Et cette pression, elle a toujours plus ou moins existé, en tout cas la sensibilité vis-à-vis de nos patients. Mais je crois qu'effectivement, elle s'est exacerbée par la sensibilité, la place que prend l'animal. Et puis par nos connaissances qui ont évolué en termes de compétences cognitives des animaux. Si d'instinct on sentait une communication possible avec les animaux il y a 35 ans ou 40 ans et depuis toujours, aujourd'hui on ne peut pas. La démonstration scientifique existe qu'ils sont sensibles, qu'ils sont capables de communiquer et qu'on est capable de créer un vrai lien avec ces animaux. Et tout le bénéfice qu'ils nous apportent également est aujourd'hui purement démontré. Donc c'est devenu quelque chose de très sensible à titre humain pour les vétérinaires.
Oui, et très lourd, à la fois dans les écoles, on l'a vu il y a 2 semaines, voilà. Et puis sur le terrain professionnel aussi. Léonie Castagnier, vous êtes étudiante à l'école vétérinaire d'Alfort et bénévole à Vétérinaire pour tous. Votre ressenti, est-ce que justement cette situation qui a été médiatisée aussi, et par rapport à certaines écoles dans lesquelles des étudiants vont jusqu'au suicide, qu'est-ce que ça génère justement dans votre génération et au sein de ces écoles ?
C'est vrai qu'effectivement, on se pose beaucoup de questions. C'est quand même des situations qui sont un petit peu anxiogènes, les nouvelles, etc. Après, je pense qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul et se dire que certes, c'est pas un métier facile, mais qu'on peut quand même améliorer les choses et qu'il y a quand même des choses qui s'améliorent au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, que ce soit en stage, en cours ou dans les choses qu'on apprend. Mais au fur et à mesure, je suis sûre que on y arrivera et qu'on arrivera à améliorer les choses également.
Les difficultés, peut-être que vous pouvez déjà percevoir au sein de l'école ou à l'extérieur, dans les stages professionnels ?
C'est vrai que plus on avance dans le cursus, plus on apprend de choses et plus on se rend compte des différentes facettes du métier, en fait, que le vétérinaire est vraiment partout, que ce soit dans des questions très techniques sur les conceptions des bâtiments, par exemple sur le côté rural, et en même temps le côté presque psychologique avec le propriétaire des animaux de compagnie. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à faire un petit peu le grand écart entre les deux et réussir à apprendre un petit peu tous ces côtés. Donc c'est un petit peu compliqué, mais on essaye tous de faire au mieux, en tout cas, j'en suis sûre.
Et assumer l'exigence aussi des écoles, le rythme qui ont été potentiellement peut-être aménagés depuis ces rapports, mais à regarder, bien sûr, et ne pas lâcher cet état des lieux et ce ressenti. Des études qui vous ont donc accompagnées les unes les autres, Yesenia Alves-Laiva, de votre côté, vous exercez depuis quand ?
Alors moi, j'exerce depuis 15 ans maintenant. J'ai exercé pendant 10 ans au sein de structures, donc de cliniques vétérinaires, en tant que généraliste et urgentiste aussi. Je fais beaucoup d'urgences. Et après, j'ai un peu exercé à domicile en tant qu'urgentiste. Et depuis 5 ans, donc uniquement pour Vet-Eden.
Vet-Eden, dont nous allons parler dans la deuxième partie d'émission. Alors, avec le SAMU Social, l'association Gamelle Pleine et l'engagement de jeunes vétérinaires qui soignent les animaux des personnes précaires, c'est une autre facette de ce métier dont nous avons choisi de vous parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous proposons d'écouter ce reportage diffusé sur France 3 Normandie le 23 janvier 2017.
Elle ne demande que de l'amour, donc c'est parfait, c'est super.
Ingrid est aux petits soins pour Émeraude. Ce cocker bénéficie d'un toilettage gratuit. Difficile en effet pour son maître Fano, un sans domicile fixe, de lui offrir un tel service. Le temps d'un après-midi, les plus démunis et leurs chiens sont choyés par les bénévoles de l'association Gamelle Pleine.
C'est vrai qu'il fait très froid, donc ils sont contents de vouloir se réchauffer, venir avoir des habits chauds. Et puis, on voulait leur porter une bonne année en les relookant et ben, ils sont tous contents qu'on leur propose de partir sur le bon pied.
À l'origine, venu pour ses chiens, Fano accepte de passer entre les mains de Marie, la coiffeuse. Une séance appréciée par le jeune homme.
Oh, ça fait du bien. En plus, avec les filles, en plus. Voilà, il n'y a pas mieux.
Ça leur fait plaisir. Et puis bah, pour nous, c'est du plaisir aussi, quoi.
Il suffit de les voir arriver et les voir repartir, c'est plus les mêmes personnes. On voit les épaules qui ont monté d'un étage. Ils sont vraiment très heureux, ils se sentent beaux, ils se sentent compris. Ils existent dans les yeux de plusieurs personnes.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Estelle Prié, une réaction peut-être à ce reportage, mais surtout parlez-nous aussi du principe, sur quel principe et avec quelles ambitions a été fondée cette association Vétérinaire pour tous.
Oui, alors je suis très heureuse que vous ayez choisi un extrait avec l'association Gamelle Pleine, parce que il faut bien avoir en tête qu'effectivement nous sommes vétérinaires, mais uniquement vétérinaires. Et ce qui est important à comprendre dans ce qui est mis en place dans les dispositifs avec Vétérinaire pour tous n'est possible que en coordination avec des structures sociales, avec des associations qui accompagnent. Et on a pas mal d'actions avec Gamelle Pleine. On était présents ensemble au Salon de l'agriculture pour présenter le bus Balto, qui est une salle de consultation qui se déplace. Et c'est essentiel de comprendre que dans ce principe de médecine vétérinaire solidaire, on est face à un public qu'on rencontre pas forcément en clinique et que on a besoin d'être accompagné et que notre ambition elle passe par les animaux, mais elle est vraiment sociale. Dans le sens où, comme on a pu l'entendre, le lien qu'ont les personnes en difficulté, en grande précarité, avec leur animal est essentiel pour leur équilibre, mais aussi pour leur insertion sociale. Et nous, en fait, on sert de vecteur pour les amener au plus près des autres structures qui peuvent les aider. Et donc, en l'occurrence, pour ce qui est des vacations, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, hein, donc c'est des sessions de médecine vétérinaire solidaire qui se déroulent dans des lieux qui ne sont pas des établissements de soins vétérinaires, donc ce ne sont pas des cliniques, ce ne sont pas des cabinets, ce sont des lieux mis à disposition en général par les collectivités. Nous sommes toujours accompagnés par des travailleurs sociaux, nous sommes très souvent accompagnés par des associations qui travaillent au plus près des personnes dans la rue et donc qui les connaissent, qui organisent et contribuent à l'organisation justement de ces rendez-vous en rappelant aux gens qu'ils peuvent venir faire soigner leur animal. Et qui organise en fait même toutes les interactions au lieu dit, puisque nous on n'est que vétérinaire. Et en l'occurrence, ça permet de prendre soin des animaux pour ce qui est de notre part, mais de prendre soin aussi des gens qui viennent pour leur animal. Et donc lors des vacations, nous effectuons des soins comme a exposé Léonie, des premiers soins. Hein, donc on n'est pas dans une clinique vétérinaire, donc il n'y aura pas d'opération. Hein, oui. Mais par contre, on va discuter avec le propriétaire. C'est aussi lui montrer l'intérêt qu'on porte à son animal et l'intérêt que la responsabilité qu'il démontre en fait en l'amenant voir un médecin pour son animal. Et on va s'occuper aussi de tout ce qui est vaccination, prévention, puisque ce sont des animaux qui sont dans la rue. Donc nous, on a toujours une vue très santé publique aussi, hein, pour éviter qu'il y ait des maladies. On va les identifier, et ça, c'est important, parce que c'est une forme de traçabilité. Si il se passe quelque chose dans la rue, le chien, on sait à qui il est, donc il peut retourner, on peut retrouver la trace de son propriétaire et enfin, nous, en tout cas, les gens qui l'accompagnent. Donc, on donne une identité au chien. Et puis, c'est aussi une forme de relais lorsqu'il y a des choses un peu plus graves qui nécessitent une intervention chirurgicale, par exemple, ou pour organiser une stérilisation si le propriétaire est d'accord. On a un fonctionnement avec les adhérents vétérinaires qui sont dans leurs établissements pour qu'ils puissent prendre en charge la suite dans la continuité des vacations. Donc, à partir du moment où on est dans la continuité des vacations, les soins sont gratuits ou vraiment certaines associations demandent une mini-participation, mais de principe, qui va être de 2 euros ou 3 euros. C'est toujours dans une démarche, on va dire, de responsabilité. Et donc, les soins qui seront réalisés dans les établissements partenaires se feront sous les mêmes conditions. Donc, on essaie vraiment de créer une chaîne de solidarité en allant au plus près des gens qui sont en grande précarité, qui franchissent rarement la porte d'une clinique vétérinaire.
Donc une association qui a été cofondée par le Conseil national de l'ordre vétérinaire, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et l'association française des vétérinaires d'animaux de compagnie. Je ne pense pas me tromper, Estelle Prié, sinon vous me reprenez. Et une association soutenue par l'État dans le cadre du plan France Relance. Concrètement, qui peut y accéder et comment? C'est-à-dire comment savoir que dans telle ou telle ville, il y a un endroit et est-ce que la consultation est quotidienne ou ce sont des jours spécifiques?
Alors, je mentionne juste que cette association, au départ, a été créée dans le Var, en 1994. Mmh. Et donc, elle a perduré dans plusieurs départements jusque dans les années 2000, à peu près. Et puis, elle s'est un peu essoufflée, effectivement. Donc, en 2021, nous avons représenté le projet au ministère qui a soutenu la remise en place. Et c'est là que le soutien des trois cofondateurs de la fédération, donc qui regroupe toutes les assos, les trois institutions que vous avez citées.
D'accord.
Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César.
Tout à fait. C'est important.
En l'occurrence, donc, les conditions. Alors, pour ce qui est des vacations, donc, qui sont vraiment ponctuelles, il y a des plannings définis selon les villes qui décident d'accompagner et de mettre des locaux à disposition. Aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont surtout efficaces dans les quatre régions où il y a des écoles vétérinaires, puisque c'est comme ça que le programme a été soutenu en 2021 à chaque fois. Donc c'est la région parisienne, autour de Lyon, Toulouse et Nantes.
Oui.
Avec donc une fréquence qui variait. Au début, c'était une fois par mois. Après, sur certaines, c'est passé une fois tous les 15 jours. Donc, ce sont des dates qui sont prédéfinies avec les lieux d'accueil. Et donc là, c'est très lieu dépendant. Il n'y a pas de... sur certaines, c'est très régulier. Sur d'autres, c'est plus ponctuel. Et donc, c'est là aussi pour ça qu'on a besoin d'être en relation avec les associations sociales qui accompagnent les gens qui sont dans la rue ou en grande précarité. Donc, les vacations, aujourd'hui, il n'y a pas de régularité. Enfin, je ne peux pas vous donner un planning, une journée à tel endroit. C'est quelque chose qui est encore en construction.
D'accord. Et ceux qui peuvent y accéder, alors les...
Alors, ceux qui peuvent y accéder, de toute façon, il y a effectivement des critères d'éligibilité. Sur ces vacations, où les actes sont complètement gratuits, c'est majoritairement destiné aux SDF, aux personnes qui sont sans domicile. Et dans certains cas, des personnes qui ont été identifiées par les associations comme Gamelle Pleine comme étant dans une précarité extrême, qui ne sont peut-être pas à la rue, mais qui vivent dans des conditions et qui n'ont absolument pas de moyens et qui sont déjà aidées, en fait, par l'association. Donc, nous, on s'appuie vraiment sur le travail des personnes qui sont au plus près des personnes précaires. Et on va dire qu'on leur fait confiance sur la légitimité à accéder à des soins complètement gratuits. Donc, ça, c'est pour les vacations. Après, il faut aussi mesurer l'autre partie du dispositif qui est la plus importante en volume, qui est la prise en charge qu'on appelle un tiers en établissement de soins vétérinaires. Et là, elle s'adresse à un public qui connaît les critères d'éligibilité. Ils sont en ligne sur le site de Vétérinaire pour tous. Il y a la possibilité de s'inscrire comme bénéficiaire. Quand on s'inscrit comme bénéficiaire, ça ne veut pas dire qu'automatiquement on va accéder à des soins, mais on a accès aux critères. Donc les critères, c'est non imposable, plus tout ce qui concerne RSA, allocation adulte handicapé, personnes âgées qui ont le minimum vieillesse. Ça va être aussi les apprentis majeurs, les étudiants boursiers. Donc on a essayé vraiment d'adapter au fil du temps au public qu'on a ciblé comme étant les personnes qui avaient vraiment besoin d'être aidées pour faire soigner leurs animaux. Et de l'autre côté, vous avez donc des établissements de soins qui sont adhérents, qui se manifestent comme étant adhérents à Vétérinaire pour tous sur la plateforme et qui adhèrent à l'association. Alors, on était autour de un peu plus de 500 établissements au 31 décembre, en sachant que dans un établissement, on va de 1 vétérinaire jusqu'à 15, 20, 30 pour les plus grands. Donc, j'aurais du mal à vous dire combien de vétérinaires ça fait, mais on est en moyenne à 2000 ou 2500 vétérinaires
oui.
qui seraient engagés dans cette démarche solidaire. Donc, on ne donne jamais la liste Et ça, c'est une question récurrente. Hein. Mm-hmm. On ne donne jamais la liste des établissements adhérents pour la bonne et simple raison que n'importe quel vétérinaire peut adhérer dès le premier cas. C'est-à-dire que lorsqu'il se trouve confronté à une personne en difficulté pour laquelle il se dit qu'il y a peut-être possibilité de se faire aider par Vétérinaire pour tous, il peut, dès ce premier cas, adhérer. Enfin, je veux dire, on n'a pas de période de latence ni d'adhésion préalable obligatoire. Donc, c'est assez fluctuant avec un turnover en fonction des cas rencontrés. Et lorsque le vétérinaire veut accompagner la personne qu'il a en face de lui, puisqu'il garde le libre choix de décider quand même si il souhaite faire un geste solidaire, puisque ça va représenter un abandon de ses honoraires de 33%, un tiers, hein, et donc des conditions, du contexte, si c'est quelqu'un qui connaît ou pas, enfin bref, toutes les raisons qui feraient qu'il a envie de faire quelque chose, parce que les vétérinaires ont toujours fait des gestes de solidarité, ont toujours fait des remises sur leurs factures. La plateforme de Vétérinaires pour tous permet donc de générer un dossier de demande d'aide. Le bénéficiaire doit remplir de son côté les documents nécessaires et on a un système de validation qui n'est pas de l'intelligence artificielle, hein, qui est bien une personne qui... c'est vraiment du cas par cas, quoi. Hein, on regarde les critères. Et le vétérinaire a le feu vert ou non,
pour accepter.
Mais très souvent le feu vert, et on lui donne le montant de la participation de Vétérinaire pour tous, donc il sait exactement de combien la participation de Vétérinaire pour tous sera. Donc jusqu'à 450 euros, la question ne se pose pas, c'est toujours un tiers.
D'accord.
Au-dessus de 450 euros de vie, hein, c'est le bureau de l'association qui décide si c'est bon ou pas.
D'accord.
Par contre, pour la liste, clairement, nous, la démarche, hein, c'est que vraiment, notre slogan, hein, c'est la solidarité est plus facile à porter lorsqu'elle est partagée. Donc, plus on sera d'établissements, plus on aura d'établissements vétérinaires adhérents, moins chaque établissement aura aussi d'efforts, entre guillemets, à fournir et gérera ce qu'il y a dans le périmètre de sa clientèle.
Bien sûr. Alors, dans ce dispositif, il y a les personnes mobilisées et puis les bénévoles, hein, comme vous, Léonie Castagnier, étudiante à l'école vétérinaire d'Alfort et donc bénévole à Vétérinaire pour tous. Je vous propose, avant de revenir avec vous sur vos retours de terrain, ce vécu hein, dans ce cadre-là, je vous propose d'écouter cet extrait de reportage diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, 11 janvier 2024. On y mesure aussi, bien sûr, l'attachement dans cette relation humain-animal et ces personnes pour lesquelles souvent les animaux sont leur seule famille.
Avec l'association Gamelle Pleine, les personnes précaires peuvent prendre soin de leurs animaux.
C'est mon ami, quoi. Ah, je suis tout seul, alors on est deux. Il est plein de bêtises, mais bon, ça m'occupe.
Les frais vétérinaires, c'est 130 euros la piqûre pour l'anti-arthrose. Et du coup, avec eux, je donne que 25 euros de ma poche, quoi. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon j'aurais été malheureusement être obligé de piquer mon chien. Quoi.
C'est ma fille, hein. C'est ma vie. Hein. Bah oui. Hein. Et ouais, c'est quelque chose. Hein. Et ouais, et grâce à eux, se nourrit.
Léonie Castagnier, emmenez-nous sur le terrain, puisque ce quotidien, vous avez choisi de le vivre aussi en tant que bénévole. Comment ça s'est passé pour vous ?
Oui, exactement. Donc, moi, j'ai commencé l'année dernière à faire des vacations avec l'association. Donc, je crois que j'en ai fait deux ou trois dans l'année. Donc, en fait, on part de l'école avec tout le matériel, etc., pour la vacation. Donc, on est en groupe de trois ou quatre étudiants. Et donc, à l'école d'Alfort, elle se déroule chaque semaine. Donc, on est vraiment régulier sur le planning, sauf les semaines, enfin l'été, il y en a un petit peu moins, comme la plupart des étudiants ne sont plus à l'école. Mais globalement, c'est une fois par semaine. Et donc, on part de l'école avec tout notre matériel et on rejoint le vétérinaire sur place. Donc, c'est soit au SAMU social de Paris, c'est également à la maison de l'animal de manière régulière. Et ensuite, on a souvent deux fois par mois dans des mairies. En Ile-de-France, donc là récemment il y a eu la mairie de Levallois par exemple, mais ça change effectivement assez régulièrement et on a beaucoup de demandes pour d'autres mairies aussi. Donc j'ai fait ça l'année dernière et je me suis aussi engagée dans le bureau de l'association du coup Vétérinaire pour tous junior à Alfort. Et donc maintenant je vis à la fois les vacations à l'extérieur et à la fois le côté associatif et donc la vie de l'association de l'intérieur, dont l'organisation des vacations solidaires.
On a bien compris aussi par les paroles d'Estelle Prié que l'animal est un intermédiaire pour entrer en contact avec les propriétaires, toucher aussi cette population souvent désocialisée, et tout cela avec l'aide bien sûr d'autres associations et de bénévoles. L'animal et les animaux en question, Léonie Castagnier, est-ce que vous avez pu repérer peut-être des types d'animaux spécifiques, des animaux qui se présentent aussi en général avec certaines pathologies propres au fait de vivre dans des situations précaires ou dans les rues ?
Oui, alors globalement, c'est surtout des chiens et des chats qu'on voit. C'est vrai que par exemple, au SAMU social, où il y a beaucoup de personnes sans domicile fixe, c'est plus souvent des chiens. Et à l'inverse, dans les vacations en mairie, c'est souvent des personnes en situation de précarité, mais pas forcément sans domicile fixe. Et donc là, certaines fois, on a plus de chats. Mais c'est vrai que c'est assez aléatoire d'une vacation à l'autre. On peut avoir des après-midi où on a quasiment que des chiens, et inversement. Après, c'est vrai que je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est principalement de la prévention. Donc c'est vrai que dans les après-midi que j'ai faites, il y a eu beaucoup de vaccins, d'identification et de choses comme ça. C'est vrai qu'il y a peu de soins, enfin voilà, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de choses comme ça. Mais par contre, il y a des discussions autour de soins qui peuvent être pris en charge par Vétérinaire pour tous avec les propriétaires. Et là, c'est vrai que c'est toujours enrichissant de discuter à la fois avec le vétérinaire et à la fois avec le propriétaire pour savoir est-ce qu'on envisage telle opération pour l'animal, est-ce qu'on fait telle injection, par exemple sur l'extrait que vous avez mis pour les injections contre l'arthrose. Voilà, c'est des questions qui ont été posées plusieurs fois en vacation, effectivement.
Et oui, on relève des problèmes dermatologiques, des troubles digestifs, des problèmes locomoteurs, d'arthrose, de vieillissement articulaire. Mais est-ce que, au cours de ces gardes et donc de ces expériences, Léonie Castagnier, vous avez vu qu'il y avait peut-être d'autres pathologies spécifiques et propres peut-être aux conditions aussi de vie et aux conditions climatiques, parce que ces animaux, comme leurs propriétaires, doivent aussi affronter plus largement le froid ou la chaleur?
Après, je vais rejoindre ce que vous avez dit. C'est vrai que c'est principalement des infections dermatologiques, donc des infections dermatologiques, pardon, aussi dues à des parasites, donc traitement contre les puces, les tiques également pour les chiens. Donc ça se rejoint à peu près avec ce que vous avez dit. J'aurais pas beaucoup plus à rajouter là-dessus. Moi, en tout cas, les vacations que j'ai faites, j'ai pas vu plus que ça. Donc après, il en existe sûrement, mais je pourrais pas vous en dire plus de mon côté.
Estelle Prié, je me tourne vers vous, et vous avez quelques années quand même d'expérience aussi sur ces terrains-là. Vous avez dû repérer des choses spécifiques, peut-être des cas de stress plus prononcés chez ces animaux-là. Et aussi, on se pose la question, il peut y avoir bien sûr la relation fusionnelle, mais vous pouvez vous retrouver aussi peut-être face à des situations de maltraitance repérée. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce que vous avez la possibilité de faire des signalements?
Oui, alors je pense que là, on est beaucoup dans l'image ou l'imaginaire des animaux qui vivent à la rue. Il y a un constat qui est partagé, c'est que de façon vraiment majoritaire et ultra majoritaire, les animaux sont en très bon état. Certains même sont trop gros parce que les propriétaires préfèrent se priver pour nourrir leurs chiens avant eux. Et ils sont globalement très attentifs à leur bonne santé. Et vous parliez de stress.
Oui.
Et bien au contraire, parce qu'en fait, ce sont des chiens qui sont hyper sociabilisés, parce qu'ils vivent en meute, ils vivent à plusieurs. Il y a un système de famille qui a été répertorié par un sociologue, chercheur, Christophe Blanchard, qui a mis en évidence que les animaux ou les portées, les chiennes qui avaient des portées, les chiots étaient donnés à des personnes bien spécifiques, bien ciblées, parce qu'en fait, ces personnes à la rue souvent sont très isolées familialement et recréent une famille, une descendance même, avec leurs animaux. Ça ne veut pas dire qu'ils les font reproduire à outrance, mais que si jamais ils se retrouvent avec des petits, ou ils se reconnaissent entre eux, ils les confient entre eux. Et lorsqu'il y a des problèmes de maltraitance, ça c'est quelque chose qui a été aussi vraiment avéré, les problèmes se règlent entre eux. C'est-à-dire que les animaux peuvent être repris
par soit la personne qui l'a donné, soit d'autres personnes qui ont des animaux, entre guillemets, de la même famille. Et il y a une espèce de rétro-contrôle sur la façon dont les animaux sont traités et considérés. Alors évidemment, on n'est pas à l'abri de dérives de violence qui s'exercent dans la rue. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Oui. Il y a effectivement aussi de la violence, mais pas plus qu'ailleurs, et à la limite presque plus contrôlée qu'ailleurs, parce qu'on est dans des environnements où les gens se connaissent et les animaux sont connus les uns par rapport aux autres. C'est étudié, hein, c'est démontré, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête. Et ces animaux-là, on a rarement des problèmes en consultation, parce que justement, ils sont habitués, ils sont pas désensibilisés, mais en tout cas, ils vivent dans un environnement qui est tellement sollicité en permanence, dans la rue, hein, avec des gens qui passent devant eux, avec des échanges, des rencontres, des regroupements, que ce sont rarement des chiens qui ont des problèmes de stress, d'anxiété ou de désocialisation. Au contraire, ils sont plutôt très sociables. Donc, on a une fausse idée de cette situation. On voit des fois des publications où les gens s'émeuvent du chien qui a froid dans la rue et ils oublient que la personne à côté d'eux, elle aussi, elle a froid. Mmh. L'animal, il a une fourrure, il n'est pas fait pour être habillé. Il vit plutôt mieux dehors que la personne avec qui il est. Et en l'occurrence, pour ce qui est des maltraitances, je ne crois pas que ce soit là qu'il faille cibler, même s'il y a évidemment un œil vigilant en tant que vétérinaire, mais c'est rarement ceux qu'on va voir en consultation, malheureusement. Et après, pour ce qui est du côté du devoir du vétérinaire, clairement, aujourd'hui, c'est dans nos missions, enfin, ça a toujours été dans nos missions de signaler s'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, des plaies anormales. Mmh. Alors peut-être que certains pensent aux combats de chiens et autres, c'est pas les chiens des SDF hein, qui font des combats de chiens, hein. Oui. C'est pas du tout.
Il faut le rappeler.
C'est vraiment le compagnon quoi. Hein. C'est
le
vraiment
compagnon
leur compagnon.
De vie. Oui.
Ah mais complètement. Mmh. Hein. Et c'est pas une bête de guerre quoi.
Oui.
Une arme. Hein.
Et on imagine combien la perte de son animal, alors en général, hein, et encore plus pour des personnes précaires et démunies, est un cataclysme. Quelle est la prise en charge dans ce cas-là de votre côté?
Alors, de notre côté, si on voit l'animal, effectivement, et qu'il est nécessaire, vu son état, de procéder à l'euthanasie, ça se passera exactement comme avec n'importe quelle personne. Ce n'est pas parce qu'on est... Alors, on essaye, en vacances, c'est des moments où il faut prendre son temps, mais ça, je pense que ce sera beaucoup mieux expliqué après. Mais en tout cas, la sensibilité par rapport au choc ou au traumatisme que ça peut faire est effectivement probablement encore plus importante avec des personnes comme les SDF. Mais cette relation-là, on la constate en cabinet avec une personne âgée qui sait qu'elle ne reprendra jamais d'animal, une personne qui a gardé l'animal de son enfant décédé. Enfin, on en a beaucoup des situations et finalement, c'est toujours ce moment très très fort en émotion qu'il faut gérer, quelle que soit la situation. Et je tiens à dire que la qualité des soins qui sont réalisés en vacation ou dans le cadre de la médecine solidaire, un tiers en établissement, le vétérinaire a l'obligation déontologique de soigner les animaux toujours avec la même qualité, alors avec des moyens qui seront des fois un peu plus restreints, mais en tout cas en s'attachant toujours à limiter les souffrances et à faire au mieux dans l'intérêt de l'animal, toujours, toujours, toujours. Donc, quelle que soit la situation, la position du vétérinaire, elle est la même. Après, il existe différentes façons aujourd'hui de gérer la suite oui. de son animal. Et effectivement, la crémation individuelle, comme peut-être ça va être évoqué ensuite, hein, donc
Tout
les incinérations
fait.
Individuelles, les choses comme ça, elles ont un coût. Et chez Vétérinaire pour tous, on a fait un choix, on va dire, de raison, qui est qu'on prend en charge une incinération simple, on va dire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la personne avec son chien mort sans lui proposer de solution sous prétexte qu'il n'a pas les moyens. Donc, on a fait ce choix qui nous paraissait évident de financer l'incinération de son animal. Mais bien sûr, on ne va pas prendre en charge une prestation supplémentaire, même si on comprend que ça pourrait être une attention légitime de la part du propriétaire, tellement l'animal est important pour lui.
Bien sûr.
Mais voilà, on est toujours dans cette aussi... cette responsabilité,
cet équilibre en fait, aussi.
Voilà, exactement, ouais. Exactement.
Et pour les vétérinaires qui souhaiteraient vous rejoindre, j'en profite pour dire bah, direction le site vétérinairepourtous.fr, bien sûr. Restez avec nous, c'est la suite de Deux causes à effet dans un instant. Après le choix musical de Yesenia Alves Leiva, vous avez choisi U2 et le choix de la musique, c'est
It's a Beautiful Day.
Exactement. Un choix qui vous fait penser à quelque chose en particulier par rapport au thème d'émission ou pas forcément?
C'est tout simplement une musique qui me porte énormément et de me dire que voilà, on peut faire une toute journée peut être belle si on le décide d'être belle.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
U2, The Beautiful Day, c'est le choix musical de Yesenia Alves Leiva qui est avec nous, vétérinaire et accompagnante de deuil animalier, fondatrice de Veteven, autrice du livre J'accompagne la fin de vie de mon animal, édité chez Courrier du Livre. Et vous avez compris que c'est la suite, bien sûr, du magazine de l'environnement sur France Culture, profession véto de la rue à la fin de vie, comment prendre soin de nos compagnons. Avec nous également Estelle Prier, docteur vétérinaire représentant l'Ordre des vétérinaires au Conseil d'administration de Vétérinaires pour tous. Elle est aussi conseillère nationale chargée de la commission protection et bien-être de l'animal. Et Léonie Castagnier, étudiante à l'école vétérinaire d'Alfort et bénévole à l'association Vétérinaire pour tous.
Ça fait combien de temps qu'il respire vraiment mal à peu près?
Depuis hier après-midi, en fin d'après-midi, je trouve qu'il respire encore plus difficilement qu'hier.
Mais il y a toute la trachée qui est complètement, ça, qui est complètement ouais, prise par ce phénomène hémorragique. Hein, on sent à l'intérieur, hormis cette masse-là en tant que telle. Et puis là, il peut respirer, puis ça va se terminer dans les 24 heures. Hein, donc il faut le laisser tranquille.
Non, c'est épouvantable.
Je suis d'accord, là, bien sûr. Bien sûr. Votre maman est prête? Il faut que je lui dise ou c'est bon?
Non, on s'occupe de Maxi. Comme je t'ai dit, et tu m'as dit OK, puisque c'est toi qui m'as dit téléphone vétérinaire, on va arrêter ses souffrances.
Il ne faut pas le regarder comme ça parce qu'il souffre et il va mourir. Là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de traitement. Non, ça fait trop longtemps que ça dure. Je crois, il a une belle vie, hein. Hein, 13 ans, c'est bien, hein. Mais oui, je comprends que c'est dur. Je comprends tout à fait.
La propriétaire vient faire une dernière caresse à son chien avant l'euthanasie.
Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui fait une première injection qui va l'endormir tranquillement, d'accord. Hein, on va le laisser après se déplacer, il va s'endormir et ensuite il ne sentira rien pour la deuxième. Ok.
Extrait d'une vidéo des services d'urgence en date du 17 janvier 2021. La fin de vie de nos animaux est un sujet qui questionne bien sûr nos sociétés et qui vous a poussé, Yesenia Alves Leiva, à changer votre quotidien de vétérinaire. Dites-nous peut-être tout d'abord quel a été l'élément ou les éléments déclencheurs pour vous, pour ensuite créer Veteven dont vous allez nous parler.
Oui, absolument. Alors, j'ai été donc généraliste dans des cliniques vétérinaires. Donc, j'ai été confrontée évidemment aux euthanasies dont une certaine partie se déroule en urgence. Et donc, je voyais toujours évidemment à quel point cela impactait à la fois donc l'animal hein, qui arrive en général dans un état de détresse importante, et également donc la famille qu'il y a autour. Et donc j'étais toujours à la fois attirée par ces consultations-là parce que j'aimais être aider les personnes à ce moment-là dans ce cas très précis, et à la fois je me disais qu'il y avait quand même des choses à faire pour accompagner mieux, et donc ça a été le début de ma réflexion. Et ensuite est arrivé le décès de ma propre chienne que j'ai euthanasiée moi-même, donc ado chez moi, et que j'ai accompagnée lors de sa maladie qui était un cancer.
C'était en 2014.
C'était en 2014, et là, ça a été réellement l'élément déclencheur où je me suis dit, c'est ça qu'il faut, c'est accompagner dans la douceur son animal jusqu'à son dernier souffle, chez lui, quand cela est possible. Et donc de là, je me suis...
Vous l'aviez fait dans votre jardin, c'est ça ?
Dans mon jardin.
Comment ça s'était passé ?
Ben, c'était, ma chienne s'était dégradée, elle était encore là, hein, mais elle s'était déjà dégradée, et puis donc j'ai décidé à ce moment-là que c'était le bon moment, j'ai appelé ma famille, on était tous autour d'elle, et en fait donc je le dis, ma chienne est partie en remuant la queue et en étant heureuse. Et cette image, elle me marque, mais de manière lumineuse. En fait, j'en garde pas un mauvais souvenir, j'en garde un beau souvenir de me dire que ma chienne, juste avant de s'éteindre, elle était heureuse de nous avoir autour d'elle.
Et en 2021, vous créez Vet Eden, après des années de réflexion et de formation, parce qu'il faut bien dire que ça n'existait pas, et que vous avez cherché des modèles et des formations. Où ça ?
Bah, outre-Atlantique, parce qu'effectivement, en France, il n'y avait rien. Même en Europe, il n'y avait pas grand-chose. Donc, je suis allée chercher ailleurs. Et puis, de manière globale, je me suis aussi formée. J'ai fait plein de formations, mais autour du deuil, de l'accompagnement du deuil. Donc là, ça a été en France. Autour de la prise en charge des traumatismes aussi, des soins palliatifs. Donc, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe en humaine aussi. Comment sont pris en charge les personnes en fin de vie, les personnes humaines. Donc, j'ai beaucoup lu à ce sujet-là. Et sinon, j'ai fait des formations plus spécifiques vétérinaires outre-Atlantique. Et après, ça a été toute ma réflexion, et puis de tenter et de créer donc un modèle unique et d'essayer sur le terrain ce que ça fait.
Outre-Atlantique, c'est les États-Unis et le Canada.
Oui, principalement, oui.
Et en France, est-ce que vous diriez qu'il y a un problème avec la mort qui reste un sujet tabou, et notamment avec les animaux de compagnie ?
Ah, mais de toute évidence. La mort est tabou, la fin de vie est tabou, elle est absolument cachée, on n'en parle pas, on n'a pas envie d'en parler parce que c'est un sujet qui est extrêmement douloureux et c'est un sujet dont on n'a pas connaissance en fait, on ne sait pas ce que c'est, ce que ça représente, pourquoi, enfin voilà, on est éduqué sans avoir de formation spécifique, tout même à l'école par exemple, là on grandit en ayant peur de la mort, finalement, et en ne sachant pas ce que c'est. C'est une totale inconnue. Et donc, déjà, en médecine humaine, c'est déjà le cas. Donc, en médecine animale, vétérinaire, c'est encore pire.
Et dans les écoles, on ne forme pas forcément à la gestion des fins de vie des animaux ?
Ah non, on ne forme pas ça. Moi, j'ai eu 2 heures de cours sur l'euthanasie de manière pratique. Comment réaliser une euthanasie ? 2 heures pour parler des chiens, des chats, des bovins, des chevaux, etc. Et basta.
C'était à Maison Alfort. C'était à l'école d'Alfort.
Voilà,
pardon.
C'était à Maison Alfort. Et ensuite, c'est une fois qu'on pratique et qu'on se retrouve seul dans sa salle de consultation qu'on est réellement confronté à des humains. Et pas qu'un animal, c'est pas qu'un acte technique, mais il y a des humains en face de nous. Et on doit prendre en charge autant les humains que l'animal pour que tout se passe bien. Mais également, et ça, il ne faut pas l'oublier, nous-mêmes en tant que praticiens. Parce que l'euthanasie est une charge très lourde, déjà. Rien que dans la prise de décision, donc de dire « je suis d'accord, nous allons procéder à une euthanasie », c'est quand même extrêmement lourd. Et c'est une décision qu'on prend seul finalement, alors avec les familles avec nous, mais seul en tant que praticien. Et ensuite, la gestion de nos propres émotions, parce que nous aussi, ça nous émeut tout ce qui se passe. Donc, et c'est là où justement, on peut mettre cette distance, parce que on ne sait pas trop gérer ça, on ne nous a pas appris. Et c'est là où on peut avoir justement le risque de, évidemment aussi de burn-out, parce que c'est un sujet qui est lourd, mais aussi de mise à distance, en fait, et qui peut être justement, pour soi et pour les familles, perçu comme un manque d'empathie.
Estelle Prié, vous confirmez ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on a un réflexe de protection parce que c'est tellement fort comme émotion que si on n'est pas préparé et effectivement est préparé, donc compétent et qu'on met pas à distance, qu'on met trop à distance, on se fait du mal, on se fait beaucoup de mal.
Et on voit bien aussi que dans la société d'une manière générale et dans le monde professionnel, quelqu'un qui perd son animal ne montre pas forcément la douleur parce que ça pourrait être ressenti comme une forme de faiblesse. Est-ce que vous l'avez vu ça aussi? Parce que Yesenia Alves-Leiva nous dit qu'il y a la prise en charge de l'animal, mais aussi les propriétaires, et que c'est vraiment un tout. Estelle Prié?
Ah pardon, excusez-moi. Je suis désolée.
Je suis toujours avec vous.
J'ai écouté la réponse. non, excusez-moi.
Oui, vraiment.
Je mesure et je ne peux qu'être d'accord. C'est cette notion d'empathie avec cette limite, mais qui s'impose à tous les soignants qui sont confrontés à la douleur, qu'ils soient humains ou vétérinaires. C'est que nous, on a cet intermédiaire, on vient nous voir pour l'animal, mais c'est très clair qu'on soigne, enfin en tout cas, notre interlocuteur, c'est les gens. Moi, je compare souvent notre métier à de la pédiatrie, hein, et où effectivement le pédiatre il est là pour l'enfant, mais s'il gère pas les parents, la douleur, le stress des parents en face, il a pas fait la moitié du travail, et puis finalement ça ne se passe pas bien. Donc c'est très très important qu'il y ait une vraie confiance qui s'établisse, et cette confiance elle va s'établir dans la sincérité dans laquelle le vétérinaire va s'exprimer en exprimant parfois sa propre tristesse, hein, parce qu'il y a certains animaux qu'on suit pendant des années, donc on doit rester professionnel, mais ça n'empêche pas d'exprimer qu'on est soit aussi touché par la fin de vie de l'animal.
Bien sûr, parce que ce tabou de la fin de vie et de la mort, hein, mieux on s'y prépare, mieux on peut aussi éviter les traumatismes, les expériences traumatiques. Léonie Castagnier, à ce stade de vos études à l'école d'Alfort, est-ce que vous avez abordé ce sujet? Est-ce qu'on n'y consacre toujours que 2 heures? Comment vous ressentez les choses?
Alors pour l'instant, on n'a pas eu de cours autour de ça. Après... C'est vrai que pendant des stages ou tout ça, on y est confronté. Et c'est vrai que les vétérinaires n'osent pas forcément nous en parler ou osent pas trop nous dire aussi comment nous préparer. Alors c'est vrai que moi, les premières que j'ai vues en stage se sont plutôt bien déroulées, si je puis dire, dans le sens où voilà, je n'ai pas été traumatisée, ça s'est déroulé correctement, les gens s'y étaient préparés également. Donc j'ai pas eu de traumatisme ou d'expérience trop désagréable, disons, avec ça. Mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde, et c'est vrai que dans certaines situations, l'annonce peut être très brutale, ça peut être décidé dans la journée ou même dans les 2 heures qui suivent. Donc je pense que ce soit pour les gens ou pour nous aussi en tant qu'étudiants, il y a des fois on n'est peut-être pas trop préparé à ça, et je trouve que oui, le sujet reste encore assez tabou, même avec les vétérinaires praticiens chez qui on est. Il y a des fois où oui, on dirait qu'ils osent pas trop nous en parler ou qu'ils osent pas trop nous expliquer eux ce qu'ils ressentent également. Donc je pense que ça reste quand même assez tabou, mais que c'est un sujet qu'il faut aborder parce qu'on y sera forcément confronté tôt ou tard dans notre pratique.
Et vous êtes en quelle année ?
Je suis en 3e année actuellement.
Alors ce quotidien, Yesenia Alves-Leiva, ce quotidien de la mort et puis de l'accompagnement, vous dites d'ailleurs gériatre pour animaux. Qu'est-ce que vous vivez? Quels sont vos principes, vos méthodes? Qu'est-ce que vous offrez aussi avec Vet Eden?
Alors moi, je prends en charge donc les animaux, des chiens et des chats, qui ont eu, soit qui sont très âgés, qui ont donc des maux de vieillesse déjà, ou alors des animaux qui ont eu un diagnostic d'une maladie incurable, donc qui va a priori mener au décès donc de l'animal, un décès plus ou moins proche. Et donc moi, ma prise en charge commence à partir de là. Et elle englobe à la fois donc les animaux pour évaluer leur qualité de vie et pour essayer de maintenir une bonne qualité de vie jusqu'à la fin, jusqu'au bout de leur vie, donc par le biais de soins palliatifs, mais également par le biais de réaménagement de l'environnement, de préparation tout simplement des familles qui, elles, peuvent du coup prendre soin de leur animal parce qu'elles savent comment prendre soin d'eux.
Et tout cela à domicile, il faut bien le préciser.
Oui, c'est vrai. Effectivement, maintenant, mon activité est exclusivement à domicile et j'ai choisi cette activité à domicile pour éviter le stress en fait du déplacement de l'animal. Là, je suis face uniquement à des animaux qui sont devenus vulnérables, qui sont fragiles, et donc pour éviter ce stress supplémentaire de devoir se déplacer. Alors évidemment, parfois ça nécessite quand même des déplacements. Je préconise des examens qui doivent être pratiqués en clinique, évidemment. Mais voilà, et également pour les personnes qui sont chez elles, qui sont donc dans un environnement familier, il n'y a pas de distance et on est dans on est dans une bulle chaleureuse et je rentre dans l'intimité réellement des personnes. Et donc je prends en charge cette famille entière, donc soit un duo, soit la famille entière, pour à la fois préparer les humains, déjà les aider à accepter la maladie, à accepter le vieillissement, à accepter la mort qui va arriver, les y préparer. Et donc nous en parlons, c'est notre sujet, entre autres. Hein. Et ensuite, donc, de pouvoir pratiquer, donc, dans la grande majorité des cas, des euthanasies, lors d'un bon moment, à la fois pour l'animal, mais aussi pour les humains. Et cette euthanasie se déroule à domicile, donc elle est toujours préparée. Et là, je prends vraiment le temps de la faire à leur image, à leur manière, et de la manière dont ça fait le plus sens pour les familles, pour se dire que c'est à ce moment-là qu'elles vont clore leur chapitre de l'histoire d'amour immense qu'elles vivent avec leur animal. Et voilà, pour moi, prendre soin de la vie d'un animal, c'est aussi prendre soin de sa mort. Parce que la mort fait partie de la vie et donc elle doit être vraiment inclue dans la prise en charge.
Et faire en sorte que tout cela se fasse sans stress et pour l'animal et pour la famille. Le plus difficile, c'est quand même cette prise de décision d'euthanasier. Encore, ça reste quelque chose de difficile pour vous ?
Alors, c'est difficile pour les personnes. Pour moi, particulièrement, non. Moi, maintenant, c'est mon quotidien. Mmh. Je suis bien dans ce quotidien-là. Ça fait sens pour moi. Et aujourd'hui, quand je prends des décisions d'euthanasie, et c'était pas forcément le cas avant, maintenant, quand je fais prendre des décisions d'euthanasie, je suis absolument sereine avec celle-ci. Je sais que c'est le mieux qu'il y a à faire pour l'animal et pour les familles.
Et donc, vous avez des petits rituels peut-être ? Vous offrez quelque chose ou quelque chose qui reste aussi pour la famille ?
Oui, alors déjà, j'offre la possibilité aux familles de pouvoir organiser un rituel lors de l'euthanasie, voire même des cérémonies. Donc j'en ai fait, hein, des cérémonies. Et puis tout ce que les familles, enfin voilà, ça c'est quelque chose qu'on prépare en amont, mais tout ce qui fait sens pour elles, eh bien on le permet à ce moment-là. Et ensuite je vais à leur rythme. Donc moi, mes euthanasies durent vraiment longtemps. C'est 1h30, 2h minimum chez les personnes. Et ensuite, oui, je permets aussi d'avoir des petits souvenirs tels que, par exemple, une empreinte de pâte quand les personnes le souhaitent, de prendre une mèche de poil. Et puis, je offre aussi un coffret souvenir avec plein de petites choses dedans. Mais voilà, ça, c'est quelque chose de symbolique qui réchauffe le cœur. Donc, je suis aussi également accompagnante de deuil animalier. Hein, et donc, je leur offre un livret que j'ai écrit sur le deuil animalier pour savoir ce qu'elles vont traverser après la mort. Donc, mon accompagnement ne s'arrête pas à la mort, ça va au-delà. Donc, elles savent ce qu'elles vont traverser, que les émotions qu'elles vont ressentir sont absolument normales, et comment les accueillir et quoi faire. En
fait. Surmonter le traumatisme. Est-ce que vous allez jusqu'à conseiller d'être accompagné par un ou une psychologue ou autre thérapeute en cas de détresse extrême que vous auriez repérée ?
Oui, bien sûr, ça m'est arrivé quelques fois. Donc, effectivement, je vois des personnes qui en ont particulièrement besoin d'avoir un soutien psychologique. Donc à ce moment-là, je les oriente, voire même un soutien médical. Hein. Et je repère aussi s'il y en a des signes de deuil compliqués. Et donc oui, je connais mes limites, évidemment. Et lorsque ça nécessite un autre soutien, je les oriente, bien sûr.
Alors que deviennent les corps en général ? Je vous propose d'en parler après avoir écouté ce reportage diffusé sur France 3 Pays de la Loire le 17 mars 2022.
Il y a certaines personnes qui veulent éventuellement récupérer un petit peu de poil de l'animal. Donc nous, on le fait. Il y en a qui veulent prendre une dernière photo. Il y en a qui veulent passer un dernier moment pendant une demi-heure, cinq minutes. Enfin, on s'adapte en fonction de la personne.
Pour ceux qui souhaitaient suivre la crémation, il fallait avant se rendre en Vendée. Depuis novembre, ce crématorium les accueille à Brissac-Quincé. Un projet qui a mis 5 ans à aboutir, mais aujourd'hui, 6 salariés font tourner le four 5 jours sur 7.
On a un four, nous, c'est un four 100 kg/h, donc qui nous permet d'accueillir un animal jusqu'à 100 kg. C'est notre maximum. sachant que une fois que cet animal est mis dans le four, on a tout un système de filtration. L'objectif, c'est que les rejets de fumée soient minimes. Ça rejette moins qu'un véhicule diesel. Il n'y a quasiment aucun rejet.
80 euros la crémation collective, 150 pour un traitement individuel avec récupération des cendres. L'entreprise travaille aujourd'hui avec 35 cabinets vétérinaires. Ils composent 95% de la clientèle, mais les particuliers peuvent aussi être pris en charge. Chambre funéraire, cérémonie personnalisée et à l'extérieur, un jardin du souvenir.
On a souhaité créer un jardin cinéraire qui nous permet de proposer aux propriétaires de pouvoir disperser des cendres dans les puits de dispersion, de pouvoir se recueillir quand ils le souhaitent dans un jardin végétalisé.
Yesenia Alves-Leiva, est-ce que tout ça, ça va dans le bon sens? Dites-nous aussi, vous, de votre côté, comment vous prenez en charge les corps? On comprend que en France, on a deux options, je crois, l'inhumation ou la crémation, et l'inhumation d'ailleurs qui est interdite à Paris, mais qui normalement, quand elle peut se faire, ou on peut enterrer dans son jardin, il ne faut pas que l'animal pèse plus de 40 kilos, je crois, il faut que le trou soit au moins de 1,20 m, recouvert de chaux vives, enfin pour le corps, à 35 mètres des premières habitations et des points d'eau, c'est ça à peu près?
Alors, légalement. Alors, jusqu'à il y a quelques années, la loi était floue sur la possibilité d'enterrer dans son jardin. Maintenant, l'interdiction, elle est quand même assez formelle. Donc, on ne peut plus enterrer dans son jardin privatif. Maintenant, on peut enterrer dans des cimetières animaliers. Il en existe à peu près une vingtaine en France. D'ailleurs, elles sont répertoriées sur mon site internet, tous ces cimetières. Mmh. Voilà. Et en plus, il y a la crémation, effectivement.
Et donc, de votre côté, comment vous faites alors? Vous proposez quoi?
Alors moi, je propose absolument tout ce qui est possible de faire, puisque là, moi, je vais dans le sens des familles et ce qui a fait sens pour elles, hein, du coup. Et donc, il y a la majorité, ça reste des crémations individuelles pour mon cas, et il y en a très peu qui font des inhumations. Oui.
D'accord, et ensuite, avec les cendres, eh bien, on fait ce qu'on veut, c'est ça?
Voilà, soit on les garde dans une urne, soit on les disperse, soit on les met dans des petits bijoux, soit on les enterre, ouais.
Estelle Prié et Léonie Castagnier, nous arrivons quasiment au terme de l'émission, il reste deux minutes. J'ai envie de recueillir votre sentiment. Peut-être, est-ce qu'il faudrait changer des choses aujourd'hui? Alors, dans la formation reçue, dans la profession, dans la société, par rapport à ce que Yesenia Alves-Leiva vient de dérouler. Estelle Prié.
Oui, bah écoutez, je pense qu'effectivement, la profession reconnaît enfin sa sensibilité vis-à-vis des animaux et que ça va dans le bon sens et aussi dans l'air du temps, tout en gardant une certaine rationalité et puis en mesurant la réalité du coût des soins. Et en ça, je tiens à souligner que l'action de vétérinaire pour tous, c'est l'action d'une profession, mais qu'elle ne pourra pas assumer seule toute cette solidarité. Et donc, je profite d'avoir l'antenne pour que si certaines personnes estiment légitime de devoir permettre l'accès aux soins pour tous, eh bien, n'hésitez pas à nous soutenir.
Léonie Castagnier, de votre côté?
Oui, pareil, je vous remercie d'avoir invité Vétérinaire pour tous sur l'émission. Je pense que c'est un sujet important, la médecine solidaire, le sujet de l'euthanasie également, vu qu'on en a parlé durant cette heure. Donc je vous remercie et voilà, s'il y a des vétérinaires qui nous écoutent, qui hésitent à franchir le pas pour la médecine solidaire, franchement, qui n'hésitent pas, c'est vraiment chouette comme expérience et ça aide à la fois l'animal et à la fois le propriétaire, parce que sur une laisse, il y a deux bouts. Donc, comme dit souvent l'association Gamelle Pleine, qu'on remercie également.
Merci Léonie Castagnier. Yesenia Alves-Leiva, de votre côté, allez, le mot de la fin, vous vouliez ajouter peut-être quelque chose?
Moi, je pense que le message principal que j'ai envie de faire passer, c'est que la mort s'accueille. Elle s'accueille au même titre qu'on accueille un nouveau-né. La vie s'accueille et la fin de vie devrait s'accueillir aussi. On prépare une naissance et à mon sens, la mort devrait également se préparer. Préparer le départ d'un être aimé.
Merci. Merci à toutes les trois. Estelle Prié, Léonie Castagnier, Yesenia Alves-Leiva. Je rappelle le titre de votre livre, J'accompagne la fin de vie de mon animal, un livre édité chez Courrier du Livre. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, la bibliographie, les liens, les informations sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet ou d'autres podcasts. Et bien sûr, les sites de nos invités vous attendent, et notamment aussi le volet 1 de cette série sur les vétérinaires.